les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dieu m'a envoyé un compagnon, mais par un tour assez obscur de sa sainte volonté, il l'a choisi au plus bas degré de l'échelle humaine. J'ai assez gémi de l'absence de cette société que toute mon œuvre sur cette terre appelait en vain. Cette société m'est donnée dans sa forme la plus rudimentaire et primitive, certes, mais il ne m'en sera sans doute que plus facile de plier ce sauvage à mon ordre. Un sauvage n'est pas un être humain à part entière. La lecture du roman de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, paru chez Gallimard, donnait vie au personnage qui habitait l'île, gouverneur et serviteur. Voici le 11e rendez-vous de cette série de 16, première diffusion sur France Culture le 28 août 1967.
Écoutons, lu par François Chaumette, la suite des aventures de Robinson Crusoé, extraite du récent roman de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Lorsque Vendredi est entré dans sa vie, Robinson a d'abord cru que l'Indien allait être la justification de l'organisation frénétique à laquelle il avait soumis l'île. Cette exploitation intense, qui pouvait paraître inutile, allait peut-être prendre un sens nouveau grâce à ce second habitant de l'île. Aussi commence-t-il par imposer purement et simplement à Vendredi une façon de vivre et de penser qu'il considère comme seule valable. Mais un jour, l'horloge à eau, la clepsydre, qui rythme l'emploi du temps de Robinson, s'arrête. Cet incident mineur va être pour Robinson l'occasion de découvrir que son compagnon a une personnalité, des goûts et une vision du monde bien personnelle.
Où l'on voit Vendredi, libéré de la tutelle de Robinson, donner libre cours à ses instincts bons et moins bons.
En entrant dans la résidence, Vendredi s'aperçut aussitôt que la clepsydre était arrêtée. Il restait de l'eau dans la bonbonne de verre, mais l'orifice était obstrué par un bouchon de bois, et le niveau s'était stabilisé à la hauteur de 3 heures du matin. Il ne fut nullement surpris que Robinson ait disparu. Dans son esprit, l'arrêt de la clepsydre impliquait tout naturellement l'absence du gouverneur. Accoutumé à prendre les choses comme elles se présentaient, il ne se demanda ni où était Robinson, ni quand il reviendrait, ni même s'il était encore vivant. Il n'eut pas davantage l'idée d'aller à sa recherche. Il était totalement absorbé par la contemplation des choses pourtant familières qui l'entouraient, mais auxquelles l'arrêt de la clepsydre et l'absence de Robinson conférait un aspect nouveau. Il était maître de lui, maître de l'île. Comme pour le confirmer dans cette dignité dont il se sentait revêtu, Ten se hissa paresseusement sur ses pattes, vint se placer près de lui et leva vers son visage son regard noisette. Il n'était plus de la première jeunesse, ce pauvre Ten. Et sa croupe ronde comme un tonneau, ses pattes trop courtes, ses yeux larmoyants et sa robe laineuse et terne disaient assez les injures de l'âge au terme d'une vie de chien bien remplie. Mais il ressentait lui aussi apparemment la nouveauté de la situation. Et il attendait de son ami qu'il prît une décision. Que faire? Il ne pouvait être question d'achever l'arrosage des oseilles et des raves rendu nécessaire par la sécheresse, ni de poursuivre la construction d'un mirador d'observation au sommet du cèdre géant de la grotte. Ces travaux relevaient évidemment d'un ordre suspendu jusqu'au retour de Robinson. Le regard de Vendredi se posa sur un coffre soigneusement fermé, mais non verrouillé, et dont il avait pu inspecter le contenu, rangé sous la table de la résidence. Il le traîna sur les dalles et, l'ayant dressé sur son petit côté, il s'agenouilla et le fit basculer sur son épaule. Puis il sortit, suivi de près par Ten. Au nord-ouest de l'île, à l'endroit où la prairie se perdait dans les sables qui annonçaient les dunes, se pressaient les silhouettes bizarres, vaguement humaines, du jardin des cactés que Robinson y avait établi. Certes, il avait eu scrupule à consacrer du temps à une culture aussi gratuite, Mais ces plantes ne demandaient presque aucun soin. Il n'avait eu que la peine de transplanter sur un terrain particulièrement favorable les sujets les plus intéressants qu'il avait découverts sporadiquement dans toute l'île. C'était un hommage à la mémoire de son père, dont la seule passion, en dehors de sa femme et de ses enfants, était le petit jardin tropical qu'il entretenait dans la rotonde vitrée de la maison. Robinson avait inscrit sur ses tablettes de bois montées sur des bâtonnets piqués en terre les noms latins de ces variétés qui lui étaient revenus tous ensemble par l'un de ces caprices imprévisibles de sa mémoire. Vendredi, il lança sur le sol le coffre qui lui avait meurtri l'épaule, les charnières du couvercle sautèrent et un somptueux désordre d'étoffes précieuses et de bijoux se répandit au pied des cactés. Il allait enfin pouvoir user à sa fantaisie de ces hardes dont l'éclat le fascinait, mais dont Robinson ne faisait pour lui qu'un instrument de gêne et de cérémonie. Car il ne s'agissait pas de lui-même. Un vêtement, quel qu'il soit, ne faisait qu'entraver ses gestes, mais précisément de ces étranges végétaux dont la chair verte exorbitante, boursouflée, provocante, paraissait plus propre qu'aucun corps humain à mettre en valeur la beauté de ces étoffes. Il les étala d'abord sur le sable avec des gestes délicats pour en embrasser du regard la richesse et le nombre. Il rassembla aussi devant lui des pierres plates sur lesquelles il disposa les bijoux comme à la vitrine d'une joaillerie. Puis il tourna longtemps autour des cactus dont il mesurait du regard la silhouette et appréciait du doigt la consistance. C'était une étrange société de mannequins végétaux composés de candélabres, de boules, de raquettes, de membres contournés, de queues velues, de têtes crépues, d'étoiles piquantes, de mains aux mille doigts venimeux. Leur chair était tantôt une pulpe molle et aqueuse, tantôt un caoutchouc coriace, tantôt encore des muqueuses verdâtres dégageant des remugles de viande pourrie. Enfin, il alla ramasser une cape noire moirée, dont il drapa d'un seul mouvement les épaules massives de Cereus prunosus, puis il voila de coquet falbala les fesses tuméfiées de Crassula falcata. Une dentelle aérienne lui servit à enguirlander le phallus barbelé de Stapelia variegata, tandis qu'il habillait de mitaines de linon les petits doigts velus de Crassula lycopodiodes. Une toque de brocart se trouvait là à point nommé pour coiffer la tête laineuse de Cephalocereus senilis. Il travailla longtemps ainsi, complètement absorbé par ses recherches, drapant, ajustant, prenant du recul pour mieux juger, déshabillant tout à coup l'une des cactées pour en rhabiller une autre. Enfin, il couronna son œuvre en distribuant avec autant de discernement bracelets, colliers, aigrettes, boucles d'oreilles, ferrets, croix et diadèmes. Mais il ne s'attarda pas à la contemplation du cortège hallucinant de prélats, de grandes dames et de monstres opulents qu'il venait de faire surgir en plein sable. Il n'avait désormais plus rien à faire là, il s'éloigna avec Taine sur ses talons. Il traversa la zone des dunes en s'amusant de la rumeur sonore qu'éveillaient ses pas. Il s'arrêta et se tourna vers Taine en imitant bouche fermée ce grondement. Mais ce jeu n'amusa pas le chien qui progressait péniblement par bonds successifs dans le sol mouvant et dont l'échine se hérissait d'hostilité quand la rumeur augmentait. Enfin, le sol s'affermit et ils débouchèrent sur la grève largement dégagée par le jusant. Vendredi, redressé, cambré dans la lumière glorieuse du matin, marchait avec bonheur sur l'arène immense et impeccable. Il était ivre de jeunesse et de disponibilité dans ce milieu sans limite où tous les mouvements étaient possibles, où rien n'arrêtait le regard. Il ramassa un galet ovale et le posa en équilibre sur la paume de sa main ouverte. Il préférait aux bijoux qu'il avait abandonnés sur les cactés cette pierre fruste mais rigoureuse où des cristaux de feldspath rose se mêlaient à une masse de quartz vitreux pailleté de mica. La courbe du galet touchait en un seul point celle de sa paume noire et formait avec elle une figure géométrique simple et pure. Une vague s'allongea rapidement sur le miroir de sable mouillé constellé de petites méduses et encercla ses chevilles. Il laissa tomber le galet ovale et en ramassa un autre, plat et circulaire, petit disque opalescent tacheté de mauve. Il le fit sauter dans sa main. S'il pouvait s'envoler, se transformer en papillon, faire voler une pierre. Ce rêve enchantait l'âme aérienne de vendredi. Il le lança à la surface de l'eau. Le disque rebondit 7 fois sur la nappe liquide avant de s'y insérer sans éclaboussure. Mais Ten, habitué à ce jeu, s'était élancé dans les vagues et, battant l'eau de ses 4 pattes, la tête dardée vers l'horizon, il nagea jusqu'au point d'immersion du galet, plongea et revint, porté par le déferlement des vagues, le déposer au pied de Vendredi. Ils marchèrent longtemps vers l'est, puis, lorsqu'ils eurent contourné les dunes, vers le sud. Vendredi ramassait et lançait des étoiles de mer, des souches, des coquillages, des eaux sèches, des perruques de goémon qui devenaient aussitôt pour Ten autant de proies vivantes, désirables et fugitives, et il les poursuivait en aboyant. Ils arrivèrent ainsi à la rizière. Le bassin collecteur était à sec et le niveau de la lagune ensemencée baissait de jour en jour. Pourtant, il fallait qu'elle demeurât immergée 1 mois encore pour que les épis vinssent à maturité, et Robinson revenait plus soucieux de chacune de ses visites d'inspection. Vendredi avait à la main le galet mauve. Il le lança dans la rizière et compta ses rebonds sur l'eau morte, moirée de reflets gras. Le disque de pierre sombra après 9 ricochets, mais déjà Ten sautait de la digue à sa poursuite. Son élan l'emporta à 20 mètres, mais là il s'arrêta. L'eau était trop peu profonde pour qu'il puisse nager et il pataugeait dans la vase. Il fit demi-tour et entreprit de revenir vers Vendredi. Un premier bond l'arracha bien à l'étreinte de la boue, mais il retomba plus lourdement et ses efforts devinrent désordonnés. Il allait périr s'il n'était pas secouru. Vendredi hésita un instant penché au-dessus de cette eau traîtresse et impure. Puis il se ravisa et courut à la vanne d'évacuation. Il passa un bâton dans le premier trou de la queue et fit levier de toutes ses forces en prenant appui sur les portants. Le tablier remonta en grinçant dans ses coulisses. Aussitôt, le tapis fangeux qui couvrait la rizière se déplaça et commença à se résorber dans la vanne en se froissant. Quelques minutes plus tard, Ten atteignait en rampant le pied de la digue. Ce n'était plus qu'un bloc de boue, mais il était sauf. Vendredi le laissa à sa toilette et se dirigea en dansant vers la forêt. L'idée que la récolte de riz était perdue ne l'avait pas effleurée. Pour Vendredi, l'arrêt de la clepsydre et l'absence de Robinson n'avaient signifié qu'un seul et même événement, la suspension d'un certain ordre. Pour Robinson, la disparition de Vendredi, les cactés parés et l'assèchement de la rizière traduisaient unanimement la fragilité et peut-être l'échec de la domestication de l'araucan. Il était rare d'ailleurs qu'agissant de son propre chef, il trouve grâce aux yeux de Robinson. Il fallait ou qu'il ne fasse rien, ou qu'il agisse très exactement selon ses instructions pour ne pas avoir à encourir ses reproches. Robinson devait bien s'avouer que Vendredi, sous sa docilité empressée, avait une personnalité, et que tout ce qui en émanait le choquait profondément et portait atteinte à l'intégrité de l'île administrée. Il décida d'abord de prendre son parti de la disparition de son compagnon. Au bout de 2 jours, pourtant, il céda à une inquiétude complexe où se mêlaient un vague remords, la curiosité et aussi la pitié que lui inspirait le chagrin visible de Ten. Et il se mit à sa recherche. Pendant toute une matinée, il sillonna avec Ten la forêt où s'était perdue la trace de l'araucan. Çà et là, ils relevèrent des signes de son passage. Bientôt, Robinson dut même se rendre à l'évidence. À son insu, Vendredi devait séjourner régulièrement dans cette partie de l'île, y mener une vie en marge de l'ordre, et s'y adonner à des jeux mystérieux dont le sens lui échappait. Des masques de bois, une sarbacane, un hamac de lianes où reposait un mannequin de raffia, des coiffes de plumes, des peaux de reptiles, des cadavres desséchés d'oiseaux étaient les indices d'un univers secret dont Robinson n'avait pas la clé. Mais sa surprise fut à son comble lorsqu'il déboucha au bord d'un marigot que bordaient de petits arbres assez semblables à des saules. En effet, ces arbustes avaient tous été visiblement déracinés et replantés à l'envers, les branches enfouies dans la terre et les racines dressées vers le ciel. Et ce qui achevait de donner un aspect fantastique à cette plantation monstrueuse, c'est qu'ils paraissaient tous s'être accommodés de ce traitement barbare. Des pousses vertes et même des touffes de feuilles apparaissait à la pointe des racines, ce qui supposait que les branches enterrées avaient su se métamorphoser elles-mêmes en racines et que la sève avait inversé le sens de sa circulation. Robinson ne pouvait s'arracher à l'examen de ce phénomène. Que Vendredi ait eu cette fantaisie et l'ait exécutée était déjà assez inquiétant, mais les arbustes avaient accepté ce traitement. Speranza avait acquiescé apparemment à cette extravagance. Pour cette fois, au moins, l'inspiration baroque de la Rocan avait eu un résultat qui, pour dérisoire qu'il fût, comportait cependant un certain aspect positif et n'avait pas abouti à une pure destruction. Robinson n'avait pas fini de méditer cette découverte. Il revenait sur ses pas quand Taine tomba en arrêt devant un massif de magnolia envahi par le lierre, puis progressa lentement, le cou tendu, en posant ses pattes précautionneusement. Enfin, il s'immobilisa, le nez sur l'un des troncs. Alors, le tronc s'agita et le rire de Vendredi éclata. La Rocan avait dissimulé sa tête sous un casque de fleurs. Sur tout son corps nu, il avait dessiné avec du jus de génie papeau des feuilles de lierre dont les rameaux montaient le long de ses cuisses et s'enroulaient autour de son torse. Ainsi métamorphosé en homme-plante, secoué d'un rire démentiel, il entoura Robinson d'une chorégraphie éperdue. Puis il se dirigea vers le rivage pour se laver dans les vagues, et Robinson, pensif et silencieux, le regarda s'enfoncer toujours dans sang, dans l'ombre verte des palétuviers. Ainsi, les mois passaient dans des alternances de dissentiments orageux et de réconciliations tacites. Il arrivait aussi que Robinson, profondément choqué par la conduite de son compagnon, n'en laisse rien paraître et tâche de l'excuser lorsqu'il se trouvait en tête à tête avec son journal. Tel fut le cas, par exemple, dans l'affaire du bouclier d'écailles. Vendredi était absent ce matin-là depuis plusieurs heures, quand Robinson avait été alerté par une colonne de fumée qui s'élevait derrière les arbres du côté de la plage. Il n'était pas défendu d'allumer des feux sur l'île, mais la loi exigeait que l'on en avisât préalablement les autorités en précisant le lieu et l'heure, afin d'éviter tout risque de confusion avec le feu rituel des Indiens. Pour que Vendredi eût négligé cette précaution, il fallait qu'il eût ses raisons, ce qui signifiait en d'autres termes que l'entreprise à laquelle il se livrait n'avait aucune chance de plaire à son maître. Robinson referma sa Bible en soupirant, puis il se leva et se dirigea vers la plage après avoir sifflé Taine. Il ne comprit pas tout de suite l'étrange travail qu'accomplissait Vendredi. Sur un tapis de cendres brûlantes, il avait posé une grosse tortue qu'il avait fait basculer sur le dos. L'animal n'était pas mort, loin de là, et battait furieusement l'air de ses pattes. Robinson crut même entendre une sorte de toux rauque qui devait être sa façon de se plaindre. Faire crier une tortue, fallait-il que ce sauvage eût le diable à l'âme ? Quant au but de ce traitement barbare, il le comprit en voyant la carapace de la tortue perdre sa concavité et se redresser lentement sous l'action de la chaleur, cependant que Vendredi se hâtait de couper avec un couteau les adhérences qui la retenaient encore aux organes de l'animal. L'écaille était encore loin d'être plane, elle avait pris l'aspect d'un plateau légèrement incurvé quand la tortue, roulant sur le côté, se retrouva debout sur ses pattes. Une énorme cloque, rouge, verte et violacée, se balançait sur son dos comme une besace gonflée de sang et de fiel. Avec une vélocité de cauchemar, aussi vite que Taine qui la poursuivait en aboyant, elle galopa vers la mer et s'enfonça dans le déferlement des vagues. « Elle a tort, » observa Vendredi avec calme. « Demain, les crabes l'auront mangée. » Cependant, il frottait avec du sable l'intérieur de la carapace aplatie. « Aucune flèche ne peut percer ce bouclier, » expliqua-t-il à Robinson. « Et même les grosses bolasses rebondissent dessus sans le casser. » C'est le propre de l'âme anglaise d'être plus pitoyable à l'égard des animaux qu'à l'égard des hommes. On peut discuter cette disposition des sentiments. Le fait est que rien ne m'a plus éloigné de Vendredi que l'horrible torture que je l'ai vue infliger à une tortue. Je m'avise de la similitude de ces deux mots, torture et tortue. Est-ce à dire que ces malheureuses bêtes soient naturellement vouées à être des souffres-douleurs? Pourtant, son cas n'est pas simple et soulève bien des questions. J'avais cru d'abord qu'il aimait mes bêtes, mais l'entente immédiate et comme instinctive qui s'établit entre elle et lui, qu'il s'agisse de taines, des chevreaux ou même des rats et des vautours, est sans rapport avec l'élan sentimental qui me porte vers mes frères inférieurs. En vérité, ses relations avec les animaux sont elles-mêmes plus animales qu'humaines. Il est de plein pied avec eux. Il ne cherche jamais à leur faire du bien et moins encore à s'en faire aimer. Il les traite avec une désinvolture, une indifférence et une cruauté qui me révoltent, mais qui ne paraissent pas entamer le moins du monde sa faveur auprès d'eux. On dirait que l'espèce de connivence qui les rapproche est plus profonde que les pires traitements qu'il peut leur infliger. Quand il m'est apparu qu'en cas de besoin, il n'hésiterait pas à égorger Taine pour le manger, que Taine en avait obscurément conscience et que cela ne tempérait en rien la préférence qu'il manifeste en toute occasion pour son maître de couleur, j'en ai conçu une irritation mêlée de jalousie contre cet animal stupide et borné, obstinément aveugle à son propre intérêt. Et puis j'ai compris qu'il ne faut comparer que ce qui est comparable, et que l'affinité de Vendredi avec les bêtes est substantiellement différente des relations que j'ai instaurées avec mes animaux. Il est reçu et accepté par les bêtes comme l'une d'elles. Il ne leur doit rien et peut exercer sur elles innocemment tous les droits que lui donnent sa force physique et son ingéniosité supérieure. J'essaie de me convaincre qu'il manifeste ainsi la bestialité de sa nature.
C'était des extraits de Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, roman de Michel Tournier, lu par François Chaumette. Réalisation Jean-Pierre Collat.
Cette lecture, la 11e d'une série de 16, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 août 1967. À suivre et d'ici là à télécharger ainsi que les épisodes précédents sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Le roman Vendredi ou Les Limbes du Pacifique est édité chez Gallimard.